Chapitre 33. Lundi 14 décembre, l'après-midi. Eric Maria Bark est assis à son bureau. Une lumière pâle pénètre par la fenêtre qui donne sur l'arrière-cour déserte de l'hôpital. Une boîte hermétique en plastique contient les restes d'une salade. Une bouteille de coca de 2 litres est posée près de la lampe de bureau à l'abat-jour rose. Il observe un tirage de la photo qu'Aïda avait envoyé à Benjamin. Dans le noir, la puissante lumière du flash dessine une zone éclairée dans l'herbe sauvage, la haie et l'arrière de la clôture. Même en regardant d'aussi près que possible, il ne parvient pas à voir ce que la photo veut représenter. Il regarde la photo de très près et tente de distinguer s'il y a quelque chose dans le panier à feuilles en plastique. Eric s'apprête à téléphoner à Simone pour lui demander de lui relire le message mot à mot. Il voudrait savoir exactement ce qu'Aïda a écrit à Benjamin et ce qu'il lui a répondu. Puis il se dit qu'il ne doit pas lui infliger ça, que Simone n'a sans doute pas envie de lui parler. Il ne comprend pas pourquoi il a été odieux avec elle, pourquoi il lui a dit qu'il avait une liaison avec Daniela. Peut-être espérait-il simplement que Simone lui pardonnerait, elle qui doute si facilement de lui. Soudain, il réentend la voix de Benjamin, quand il a téléphoné du coffre de la voiture, comme il s'efforçait d'avoir l'air adulte, de ne pas laisser transparaître sa peur. Eric prend une capsule rose de Citodon dans la boîte en bois et l'avale avec du café froid. Sa main tremble tant qu'il a du mal à reposer la tasse sur la soucoupe. Benjamin devait être terrorisé, pense Eric, enfermé dans l'obscurité d'un coffre de voiture. Il voulait entendre ma voix, ne savait rien, ne savait pas qui l'avait enlevé, ni où on l'emmenait. Combien de temps faudra-t-il à Kenneth pour localiser la provenance de l'appel? La seule idée de lui avoir confié cette tâche l'agace, mais il se dit que si son beau-père peut trouver Benjamin, rien d'autre n'a d'importance. Eric prend le combiné. Il faut qu'il téléphone à la police, qu'il leur mette la pression. Il faut qu'il leur demande s'ils ont avancé, s'ils ont pu localiser l'appel, s'ils ont déjà un suspect. Il explique l'objet de son appel à la personne à l'autre bout du fil, mais son interlocuteur se trompe en transférant la ligne et il est obligé de rappeler. Il voudrait parler à Yona Lina, mais on lui passe un agent de police du nom de Frédéric Stensund. Il confirme qu'il s'occupe de l'enquête préliminaire relative à la disparition de Benjamin Bark. L'agent se montre très compréhensif et dit qu'il a lui-même des enfants adolescents.
« On s'inquiète toute la nuit quand ils sortent. En même temps, on sait bien qu'il faut lâcher du lest.
Mais... »« Benjamin n'est pas sorti faire la fête, » assène Eric.
« Non, effectivement. Certaines informations viennent contredire cette hypothèse. »«
Il s'est fait enlever. »
« Je comprends ce que vous devez ressentir, mais... »«
Vous n'allez pas privilégier la recherche de Benjamin. » Un silence s'installe. L'agent inspire à plusieurs reprises avant de poursuivre.
« Je prends très au sérieux ce que vous dites, et je vous promets que nous faisons tout notre possible. »«
Alors localisez cet appel, » dit Eric.
« C'est ce que nous sommes en train de faire, »
répond Stensund d'un ton plus sévère. « Je vous en supplie, » dit Eric d'une voix désarmée, avant de raccrocher. Il reste avec le téléphone à la main. Il faut absolument qu'il localise la provenance de cet appel, pense-t-il. Il nous faut un endroit, un cercle sur la carte, une direction. C'est notre seule piste. La seule chose que Benjamin avait pu dire, c'était qu'il avait entendu une voix. Comme s'il était sous une couverture, se dit Eric tout en se demandant si ses souvenirs étaient exacts. Benjamin disait-il vraiment qu'il avait entendu une voix étouffée? C'était peut-être simplement un murmure, un bruit qui faisait penser à une voix sans mots, sans signification. Eric passe la main sur sa bouche, regarde la photo et se demande s'il y a quelque chose dans l'herbe sauvage, mais ne voit rien. Quand ensuite il s'incline en arrière et ferme les yeux, l'image s'attarde sur sa rétine. La haie et la clôture marron scintillent dans des tons roses et la butte verdâtre, maintenant bleu foncé, flotte lentement. Comme une pièce de tissu contre le ciel nocturne, pense Eric. Au même moment, il se rappelle que Benjamin a parlé d'une maison, une maison hantée. Il rouvre les yeux et se lève de la chaise. La voix étouffée avait dit quelque chose au sujet d'une maison hantée. Eric se demande comment il a pu l'oublier. C'était ce qu'avait dit Benjamin juste avant que la voiture ne s'arrête. En enfilant son manteau, il s'efforce de se souvenir où il aurait vu une maison hantée, comme celle qu'on voit dans les films d'horreur. Il n'y en a pas tant que ça. Il se rappelle en avoir vu une quelque part, au nord de Stockholm, pas loin de Roseberg. Il réfléchit rapidement. L'église d'Ed, Rönnby, l'avenue, la colline, la coopérative, puis le lac Mälaren. C'est avant d'arriver au tumulus de pierre en forme de navire près du château de Runa. Le bâtiment se trouve sur la gauche, près de l'eau. Une sorte de château miniature en bois, avec des tours, des terrasses et des menuiseries tarabiscotées. Eric quitte son bureau et traverse le couloir en hâte. Il tente de se souvenir de l'itinéraire et se rappelle que Benjamin était dans la voiture. Ils avaient regardé le tumulus de pierre en forme de navire, l'un des plus grands sites funéraires vikings. Ils avaient été au milieu de cette ellipse de pierre grise dans l'herbe verte. C'était la fin de l'été, il faisait très chaud. Eric se souvient de l'air immobile et des papillons qui voletaient au-dessus du gravier sur le parking quand il s'était installé dans la voiture chauffée à blanc avant de prendre le chemin du retour, toute vitre baissée. Dans l'ascenseur, Eric se souvient qu'il s'était arrêté au bord de la route après quelques kilomètres, qu'il avait désigné la maison hantée et demandé en plaisantant à Benjamin s'il aimerait y habiter. « Où ça ?»« Dans la maison hantée », avait-il répondu. Mais il ne se souvient plus de la réponse de Benjamin. Le soleil est sur le déclin. La lumière rasante se reflète dans la glace qui recouvre les flaques d'eau du parking visiteur du service de neurologie. Il se dirige vers la sortie principale. Le gravier répandu sur l'asphalte craque sous ses pneus. Il est très improbable, Eric en est bien conscient, que Benjamin ait parlé de cette maison. Mais ce n'est pas non plus impossible. Il prend le 4 vers le nord. Les contours du monde s'estompent dans le crépuscule. Il cligne des yeux pour mieux voir. Un voile bleuté commence à tout recouvrir. Son cerveau comprend alors que la nuit est en train de tomber. Une demi-heure plus tard, il approche de la maison hantée. Il a essayé de joindre Kenneth 4 fois pour savoir s'il avait réussi à localiser la provenance de l'appel de Benjamin, sans succès. Il n'a pas laissé de message. Une faible lueur persiste dans le ciel au-dessus du grand lac. La forêt, elle, est complètement noire. Il suit l'étroite route jusqu'au petit village qui s'est peu à peu formé autour du lac. Les phares de la voiture balaient des villas récentes, de petites maisons de vacances et des demeures du début du siècle. Il se reflète dans les fenêtres et éclaire un tricycle dans une allée. Il ralentit et voit la maison hantée se dessiner derrière une grande haie. Eric dépasse encore quelques maisons, puis se gare au bord de la route. Il sort de la voiture, revient sur ses pas, ouvre une porte de jardin menant à une grande villa en briques sombres, traverse la pelouse et contourne la maison. La corde d'un drapeau fouette le mât auquel elle est accrochée. Eric enjambe la clôture du terrain voisin et passe devant une piscine recouverte d'une bâche grinçante. La grande baie vitrée du rez-de-chaussée, face au lac, est obscure. La terrasse en pierre est couverte de feuilles mortes. Eric accélère. Il devine la maison hantée de l'autre côté de la haie de sapin et se fraye un passage. Ce terrain est plus dérobé au regard que les autres, pense-t-il. Une voiture passe sur la route. Les phares éclairent quelques arbres et Eric pense à l'étrange photo d'Aïda. L'herbe jaune et les buissons. Il s'approche de la grande maison en bois. Des flammes bleutées semblent brûler dans l'une des pièces. La maison est trouée de grandes fenêtres aux nombreuses traverses et coiffée d'un toit en bardeaux orné de lambrequins qui ressemble à de la dentelle au crochet. Il se dit que la vue sur le lac doit être sublime. Avec sa tour hexagonale sur une des ailes et ses deux oriels vitrés à toit pointu, la maison ressemble à un château en bois miniature. Les planches de la façade sont en réalité horizontales, mais la ligne est rompue par un faux panneau qui donne une impression multidimensionnelle. La porte est encadrée de fioritures, des piliers en bois et un magnifique toit pointu. Quand Eric arrive à la fenêtre, il voit que la lumière bleue provient d'une télévision. Quelqu'un regarde du patinage artistique. Les caméras suivent les gestes majestueux des patineurs, leurs pirouettes aériennes et leurs mouvements alertes. La lumière bleue tremble sur les murs de la pièce. Un homme gros, en pantalon de survêtement gris, est installé dans le canapé. Il remonte ses lunettes et s'incline en arrière. Il semble seul dans la pièce. Il n'y a qu'une tasse sur la table. Eric tente de voir la pièce voisine. Quelque chose bruit faiblement de l'autre côté de la vitre. Eric continue jusqu'à la fenêtre suivante et aperçoit une chambre avec un lit défait. La porte est fermée. Des mouchoirs froissés sont posés à côté d'un verre d'eau sur la table de chevet. Une carte de l'Australie est accrochée au mur. Des gouttes tombent sur le rebord en tôle de la fenêtre. Eric suit le mur extérieur jusqu'à la fenêtre suivante. Les rideaux sont tirés. Il est impossible de voir entre eux, mais il entend de nouveau le bruit étrange, accompagné d'une sorte de cliquetis.